BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Le télétravail revient, c'est le grand retour cette semaine avec la reprise de la crise sanitaire. Deuxième vague épidémique, deuxième vague de télétravail. On est prêt, mais est-ce qu'on en a forcément envie? Peut-être qu'on pourrait faire mieux cette deuxième fois. Comment ne pas recommencer les mêmes erreurs qu'en mars sur le plan de l'organisation et de l'humain? Vous ne pourrez pas dire que c'est à l'arrache et qu'on a fait avec de la débrouille. On va en parler avec notre première invitée, c'est la DRH de Nespresso, Hélène Gemmeling. En deuxième partie d'émission, on va parler de notre confort de travail. Bah ouais, s'il faut retourner à la maison, peut-être qu'on peut s'organiser un peu comme au bureau. Nathalie Rigaud, consultante chez Steelcase, c'est un aménageur d'espace, sera avec nous. Elle va nous donner tous ses conseils pour aménager correctement notre maison. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est donc Hélène Gemmeling, DRH de Nespresso en France. Bonjour.
Bonjour.
Nespresso, ça appartient au groupe Nestlé, 1400 collaborateurs en France, 14 000 dans le monde. Vous appartenez au groupe Nestlé, mais vous avez une culture propre à Nespresso. C'est très différent ou pas?
Bah écoutez, c'est complémentaire. Il y a bien sûr une culture Nestlé qui s'exprime par ses valeurs humaines, un groupe qui a une tradition de plus de 150 ans. Et puis il y a Nespresso à côté qui a 34 ans, dont 29 ans en France. Donc on peut dire qu'il y a eu un mode start-up pendant très longtemps. Puis Nespresso France a grossi et a conservé une ADN particulière, je dirais, d'énergie, d'innovation, d'agilité au sein des équipes et de collaboration. C'est ce qui caractérise actuellement Nespresso France.
Ce qui est très étonnant et intéressant chez vous, c'est que la moyenne d'âge est très jeune. On va en reparler tout à l'heure. Mmh. Mais je le disais en sommaire, là, on enregistre le 6 octobre. Donc, on est en reprise épidémique, notamment, on est rouge écarlate à Paris, télétravail ultra recommandé. Est-ce que vous êtes prête pour cette deuxième vague de télétravail?
Alors, je dois dire que nous sommes en télétravail avec des équipes alternées qui ont 5 jours en présentiel, toujours avec un week-end au milieu et 5 jours en télétravail. Ça fonctionne plutôt bien. Bien sûr, l'aspiration des équipes, c'est de retrouver une vie un peu plus normale, un lien social, je dirais, au sein de l'entreprise qui existe de manière, plus aléatoire. Je pense qu'on est prêt. Pour l'instant, on a un protocole sanitaire excessivement strict, excessivement bien respecté par nos collaborateurs. Donc, je dirais, pour l'instant, il y a cette alternance de deux équipes et ça fonctionne bien. En tout cas, pour les personnes du siège et notre centre de relations, bien sûr, à Lyon. Les boutiques, bien sûr, travaillent et continuent avec un protocole très strict qui fait ses preuves. Et je pense que les collaborateurs se sentent en sécurité à la fois sur un plan individuel et collectif. Et ça, c'est vraiment important.
Vous remarquez pas, dans les bureaux, comme c'est un peu partout le cas, un relâchement quand même des gestes barrières? Est-ce qu'on est toujours deux dans l'ascenseur? Équipe A, équipe B, mais ceux qui viennent au bureau, est-ce qu'ils arrivent à tenir vraiment ce protocole?
Il a fallu faire de la pédagogie, il a fallu faire un rappel de consignes, je dirais dans la bienveillance. C'est respecté. Les personnes comprennent aussi que si elles se protègent elles, mais ça veut dire qu'elles protègent leur entourage. J'ai envie de dire de manière aussi professionnelle et personnelle. Donc c'est important. Je crois qu'on a vraiment passé des messages de pédagogie. Les managers ont joué le jeu, les équipes ressources humaines ont beaucoup accompagné et je pense que c'est ça le succès. Et ça se vit plutôt bien. Bien sûr qu'on aura envie de ne pas avoir son masque au bureau. Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, tout le monde l'a accepté, tout le monde vit avec, et puis on voit aussi les résultats. Et je pense que les personnes sont vraiment contentes de retrouver, je vous dis, une vie d'équipe, qui n'est pas totalement, je veux dire, pleine et entière, mais une vraie vie d'équipe avec des moments, et puis des personnes en présentiel, des personnes à distance. Ce n'est pas l'idéal, mais on est obligé aussi d'imposer, je dirais, ces conditions.
Et ce rythme, une semaine sur deux, convient mieux que deux jours.
On a préféré aussi, pour des raisons aussi de traçabilité, et c'est ça aussi qui nous a guidés dans la réflexion, avoir effectivement des équipes qui soient là 3 jours une semaine, un week-end, et 2 jours à nouveau en présence, qui permet d'assurer une meilleure traçabilité. Et je dois dire que c'est peut-être mieux pour les personnes, parce qu'il y a effectivement, du coup, quelque chose qui est à cheval sur 2 semaines. Il n'y a pas une semaine uniforme, il y a un peu des deux à chaque fois, du présentiel et du télétravail. Et je pense que ça, c'est super pour les équipes.
On connaît la critique principale sur la question du télétravail, c'est l'inégalité entre les salariés par rapport à leur lieu de vie. Mm-hmm. Comment vous gérez ça? Vous avez fourni des ordinateurs plus précisément? Il y a, je ne sais pas, une prime pour se créer un bureau
Alors, tout le monde a un ordinateur portable, et déjà avant, donc ça veut dire que le passage en télétravail a été relativement facile. Bien sûr que pendant la période du confinement, ça a été difficile pour certaines personnes qui avaient des enfants, qui étaient dans des espaces étroits. D'autres ont rejoint leur famille ou la province, etc. On a eu des demandes récemment d'équipement. On est en train d'y réfléchir, de voir si effectivement on peut fournir un fauteuil, parce que c'est pas facile aussi quand on est en train de travailler longtemps. Donc on accompagne nos collaborateurs.
Je le disais juste au début de l'émission, il y a une spécificité, vous avez des équipes extrêmement jeunes. Oui. Je crois que la moyenne d'âge est de 32 ans chez Nespresso.
Oui, un peu plus, 34 ans, mais on n'est pas loin.
Vous avez donc augmenté cette moyenne d'âge. Est-ce que vous avez tellement de jeunes que vous recherchez des seniors?
Eh bien, on recherche effectivement des seniors, parce que je pense que ça passe par un équilibre, je dirais. Voilà, donc ça se seniorise un peu chaque année, mais on reste une entreprise jeune. Les collaborateurs des boutiques ont une moyenne d'âge de 30 ans. Donc oui, ce sont des populations jeunes, mais c'est aussi source d'énergie. Et j'ai envie de dire que quand il y a des personnes aussi plus seniors dans une équipe, ça apporte un certain équilibre. Donc on recherche...
Mais comment ça se fait que vous avez ces équipes si jeunes? 23% de vos collaborateurs ont moins de 25 ans. Vous faites du retail, il n'y a pas de raison objective.
Je pense qu'il y a une attirance pour la marque. Et on est souvent, c'est vrai, le premier employeur de nos collaborateurs. Et on a une tradition de développement, d'accompagnement. Et il y a une forte politique RH en matière de formation et de développement des équipes. Et je pense que ça, ça se sait, et que ça fait partie aussi, je dirais, des valeurs de Nespresso, de développer ses collaborateurs.
Alors ça veut dire que vous acceptez de les voir partir?
On accepte aussi de les voir partir, et il y a bien sûr qu'il y a des gens qu'on regrette, mais on accepte que des personnes qui nous ont accompagnés pendant 10 ans aient envie de nourrir d'autres projets professionnels. Ça ne me choque absolument pas.
C'est marrant, vous parlez comme les cabinets, les gros cabinets de conseil, KPMG, Mazars, etc., qui eux aussi disent très souvent, on est le premier employeur, donc on doit accepter de voir partir nos cadres.
Mais c'est une réalité, et je pense qu'à l'heure actuelle, on ne retient pas, on ne fait pas sa carrière dans la même société, on ne retient pas. L'important, c'est que le moment de vie qui est partagé avec Nespresso, le collaborateur, quand il part, il sait ce qu'il a acquis, il est fier aussi d'avoir été collaborateur de Nespresso, et qu'il soit aussi un ambassadeur et de la marque et de l'entreprise surtout. Et ça se fait par rapport à ce qu'il a vécu.
Du coup, les gens partent, il faut recruter, vous recrutez donc du coup aussi beaucoup de jeunes. Est-ce que vous vous êtes mis dans toutes les politiques RH de gaming, de ludification pour attirer les jeunes? Est-ce que vous allez dans les écoles? Vous avez mis l'accent sur quoi?
Pas forcément de gaming. Je crois que ce qu'on a envie de partager, c'est effectivement quelle est la réalité de l'entreprise, et vraiment, on est ouvert sur les profils. On a vraiment envie de gens qui soient dans la collaboration, qui soient dans le collectif. On est aussi, je dirais, très attractif pour ces personnes. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent frapper à notre porte ou se manifestent. Et puis, on va aussi chasser certains profils quand on a besoin de seniorité. Donc, je dirais que c'est un juste équilibre. Je pense qu'on a...
C'est pour attirer les jeunes, vous n'avez pas une politique jeune spécifique?
Mais je pense qu'on partage notre politique. On n'a pas une politique jeune spécifique, mais on a un certain nombre, d'atouts en matière de développement, en matière aussi d'attractivité de la marque, d'attractivité du business et d'expérience collaborateur. Voilà. Je pense que ça se sait. Nespresso est une belle marque, mais c'est aussi une entreprise. Et ce qu'on essaie aussi, nous, c'est de révéler l'entreprise à ces jeunes ou moins jeunes, pour que ce qu'ils imaginent, ça soit ce qu'ils vivent une fois qu'ils nous rejoignent.
Est-ce que Georges Clounet vous a énormément aidé sur la question de l'attractivité de la marque?
Je pense que oui, bien sûr.
C'est le meilleur des recruteurs?
En tout cas, ça a été, et c'est encore, un ambassadeur de choix.
Non, mais ça marche, c'est-à-dire que tout le monde connaît Nespresso par cette identité-là, et ça attire.
Ça attire, je pense qu'il n'y a pas que Georges qui attire, et heureusement, je pense qu'il y a des super managers, et il y a une très belle entreprise derrière.
Vous parlez de diversité des profils, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi regarder au-delà du CV propre? Est-ce que vous avez changé justement votre manière de recruter? Par exemple, le Roi Merlin, pour les boutiques, il dit ça ne sert à rien le CV, nous, donc on arrête, on recrute par vidéo.
Alors, on recrute encore, je dirais, avec l'aide du CV, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'est la personne. Et je crois que l'équipe recrutement fait un gros travail de fond pour vraiment essayer de cerner la personne et voir dans quel environnement elle sera le plus appropriée. Donc, le CV, oui. Les diplômes sont extrêmement variés en boutique. Vous avez des personnes qui ont le bac, des personnes qui ont un bac plus 5, des personnes qui ont un bac plus 2, peu importe. Je crois que c'est l'esprit, c'est effectivement, la relation client qui est importante. On est quand même une société de relations clients et c'est ce qu'on va privilégier.
Donc pour la vente, diversité des profils, oui. Pas besoin d'avoir un CV classique.
Non, je pense qu'on est très ouvert et je pense que l'hétérogénéité de nos équipes le prouve.
Ça, c'est dans la vente, mais est-ce que c'est valable pour les autres postes ?
Alors, effectivement, quand vous avez des postes en marketing et qu'on a besoin de seniorité, on va s'attacher certes à la formation, mais surtout à l'expérience acquise en dehors de Nespresso du candidat. Là, on a besoin un petit peu de matcher. Bon, mais ce que l'on souhaite, c'est effectivement pouvoir accueillir une diversité de profils. On peut être exigeant, mais on est aussi, je dirais, assez large dans nos choix. Et je pense que ça, c'est important.
Dans votre comité de direction, 50% d'hommes. Chez vos managers, 60% de femmes.
Oui, parce qu'il y a 60% de femmes dans nos collaborateurs. Donc, on a la juste réplique d'un point de vue managérial. Et je dirais que, pour moi, c'est aussi une fierté. Je pense que c'est véritablement, les femmes ont leur place et n'ont pas eu non plus à se bagarrer. Ou à...
Et pas une politique spécifique.
Non, parce qu'on a beaucoup de femmes. On a 60% de femmes, 60% de managers. Et j'ai envie de dire, le point d'attention, c'est de dire qu'on reste à un certain équilibre. Il ne s'agit pas d'aller vers 70 ou 80% de femmes. Pour moi, ça n'a pas de raison d'être.
Mais ce qui veut dire que les femmes évoluent globalement au même niveau que les hommes. Il n'y a pas de passage hiérarchique plus rapide pour les hommes que pour les femmes. Parce que c'est ça le vrai sujet.
Oui, bah écoutez, on essaye de... Il faut aussi que la personne ait envie. Donc on doit bien cerner les souhaits des collaborateurs et effectivement les aider. On a une chance aussi, j'ai envie de dire, c'est qu'on fait partie du groupe Nestlé. Donc l'évolution, pour en tout cas une partie des équipes, peut se faire au sein du groupe Nestlé. Et je pense que ça, c'est un très bel avantage.
Ah bon, il peut y avoir des passages sur le groupe, sur d'autres marques potentielles.
Mais bien sûr, et heureusement, et ça c'est vraiment, je dirais, une fierté, un point fort du groupe Nestlé, qui offre une variété de business et de problématiques et de challenges extrêmement différents. Donc on doit pouvoir aussi, je dirais, accompagner nos collaborateurs aussi au sein d'autres business.
Est-ce qu'il y a chez vous, qui travaillez dans le café, une vie de bureau, bon là la période est compliquée, mais une vie de bureau spécifique ? Est-ce qu'il y a une convivialité autour du café ?
Oui,
j'en sais rien.
C'est quand même... Oui, y a une convivialité autour du café, les personnes parlent café, des sorties de nos cafés, oui, il y a une convivialité autour de nos cafés, et dans nos nouveaux locaux, il y a effectivement un certain nombre d'espaces où les personnes actuellement peuvent aller prendre un café, se tenir à distance, etc. Oui, le moment café est important chez Nespresso.
Pour parler du poste de DRH, il est en pleine évolution, il est vraiment devant les projecteurs. On sait globalement où on en est aujourd'hui, on a eu la révolution de la bienveillance, la révolution du télétravail. Demain, le DRH, c'est quoi son enjeu ? Je vous dis, quand je pose cette question, ceux qui étaient à votre place avant répondent. Aujourd'hui, il va faire du conseil en management, il va devenir agent de carrière. Comment vous voyez l'avenir de votre profession ?
Je pense que c'est un avenir riche. Je pense que la période que nous vivons, elle bouscule, mais elle nous force aussi à avancer un peu plus. Moi, je le vois comme un acteur aussi de la transformation. Doit faire aussi attention à la culture, parce que c'est quelque chose de précieux. Si on doit faire évoluer la culture, il doit être l'aiguillon et le porte-parole de ça. Bien sûr qu'on doit toujours accompagner les équipes, c'est-à-dire voir les besoins de demain et y répondre.
On va faire le petit quiz stop ou encore. Vous me dites rapidement si on continue ou pas. Les reporting, stop ou encore ?
Oh, j'ai envie de dire stop.
Les horaires, stop ou encore ?
Bah, stop dans une certaine limite, oui, il faut de la flexibilité.
Les tests de personnalité, vous en faites ou pas ?
On en a un peu, oui. Ils peuvent nous aider, mais je dirais qu'ils aident surtout, par exemple, dans des cours de carrière, etc., avec des assessments, ils aident en fait les collaborateurs. C'est un véritable axe de développement et ça leur permet de faire un point.
Les Zoom et les Teams ?
Plus que jamais, on ne peut pas s'en passer. Et heureusement qu'on se voit un peu en vidéo, par Zoom ou par Teams, parce que sinon...
Les Chief Happiness Officer, vous en avez ?
Non, on n'en a pas, mais on n'a pas de quelqu'un qui porte ça, mais on l'a porté à plusieurs au sein de l'équipe.
LinkedIn.
Oui.
Vous y êtes?
Oui, j'y suis.
Vous répondez?
Je réponds, oui.
Et vous publiez ou pas?
Je publie et je n'accepte pas non plus toutes les demandes.
Ah, voilà. Vous êtes sélective?
Ben, je suis un peu sélective parce qu'il y a des moments où je pense que être en contact avec des personnes, c'est pouvoir répondre aussi à certains besoins ou échanger. Et je ne peux pas accepter non plus tout le monde, voilà.
Merci beaucoup Hélène Gemmeling d'avoir été avec nous, DRH de Nespresso. On va continuer de parler du télétravail, évidemment, qui bouleverse notre activité, notre monde du travail, dans notre rubrique Better Together.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et puisqu'il va falloir se remettre à fond dans le télétravail, autant s'organiser correctement chez soi. On est avec Nathalie Rigaud, consultante chez Steelcase. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a réorganisé tous ces bureaux pour être prêts à accueillir à nouveau ces salariés. Là, on enregistre, on est le 6 octobre. On va repartir en grande partie chez soi. Quelles sont les clés pour ne pas refaire les erreurs du mois de mars chez soi quand on va aller travailler?
Oui, effectivement. Donc, on repart en télétravail. Quelles sont les clés? Ben, il y a pas mal de choses qui peuvent relever du bon sens et qui sont des tips assez faciles à appliquer. Il faut savoir que le bien-être, hein, puisqu'en fin de compte, on parle de ça, le bien-être, c'est trois dimensions. La première, c'est la dimension physique. Donc, il faut absolument trouver le moyen d'avoir une posture correcte, d'avoir un éclairage correct, de pouvoir être installé dans le calme, si possible. Donc, pour ça, ben, nous, on a énormément travaillé pour doter tous nos points de vente, etc., de sièges de travail. Et pour les gens qui n'auraient pas la possibilité ou qui n'auraient pas de dotation de leur entreprise ou qui n'auraient pas réfléchi au sujet, on peut néanmoins quand même toujours garder à l'esprit que la meilleure ergonomie, au-delà d'un siège, c'est de bouger. C'est de ne pas rester en posture statique, donc ne pas enchaîner les réunions les unes après les autres, sans faire de break, sans se lever, parce que le corps a besoin d'être oxygéné. Ça suffit de mettre un coussin sur son siège de cuisine, de mettre un soutien lombaire pour éviter d'avoir le creux lombaire et de souffrir de trop, de relever peut-être son ordinateur portable et de mettre un livre en dessous. Donc si on n'est pas équipé, on peut quand même faire du basique, et surtout ne pas oublier que bouger, c'est oxygéner son corps et c'est se faire du bien.
Donc bouger et œil droit, c'est ça, par rapport à œil droit, son ordinateur.
Ouais, mais je disais trois dimensions, c'est qu'il ne faut pas simplement penser au physique. On a tendance à limiter l'ergonomie à ça. Ça, c'est pas suffisant. La deuxième chose, c'est le mental, c'est les neurones. Il faut aussi éviter d'enchaîner les réunions, et je pense que c'est ce qu'on a tous vécu. C'est le fait d'enchaîner. Je pense que le travail à la maison amène cette contrainte qu'on a tendance à surcharger son agenda avec des réunions qui se suivent. Comme vous le disiez, effectivement, on a tendance à regarder un écran. Très souvent, puisqu'on est très souvent en conférence et sur des plateformes virtuelles. Donc là, c'est pareil, il faut s'aérer les neurones, je dirais. Il faut essayer de bouger aussi. Le cerveau a besoin aussi d'être oxygéné.
Hein, mais très simplement, c'est faites le tour de l'appartement.
Faites le tour de l'appartement. Si vous avez 5 minutes et que ça se présente, allez vous mettre à la fenêtre, regarder un arbre et pouvoir respirer un peu, allez faire un tour dehors. Et puis, la dernière dimension, et celle-là, elle est très embêtante, et c'est celle qui fait que les gens ont envie et besoin de revenir au bureau, c'est le côté émotionnel. C'est le fait de rejoindre un collectif, de rejoindre une intelligence collective, de pouvoir célébrer ensemble, de pouvoir rejoindre ses collègues. Malheureusement, celle-là, on nous a beaucoup parlé de sevrage social. Donc celle-là, ben, peut-être démarrer les réunions sur les 5 premières minutes en se demandant comment ça va, en pouvant se donner la parole et essayer d'éviter d'enchaîner tout au long d'une journée uniquement des sujets travail, travail, travail. Donc voilà, nous sommes des animaux sociaux. Donc c'est vraiment important de cultiver quand même cette dimension sociale.
Alors globalement, ce qu'on voit se tramer, c'est qu'il n'y aura pas du 100% télétravail. On va retourner quand même au bureau, si ce n'est un jour sur 10, ou l'équipe A après l'équipe B. Enfin, il va y avoir une rotation. Mais il y a une espèce de choix compliqué, parce qu'on dit on va retourner au bureau pour avoir de la convivialité. Les bureaux vont se transformer quasiment en cafétéria géante, mais on n'a pas le droit de s'approcher, pas le droit de partager vraiment de manière très proche. Aujourd'hui, le bureau, comment il se réorganise pour accueillir cette convivialité tout en ayant les gestes barrières?
Oui, ça a été toute la complexité de notre métier, je dirais, sur l'entre-deux, mais c'est déjà des réflexions qu'on mène depuis, bien entendu, très très longtemps, puisqu'effectivement, les gens viennent au bureau pour chercher du collaboratif, ils viennent pas pour s'enfermer dans un bureau isolé.
Ils veulent parler,
ils veulent interagir, ils veulent travailler ensemble. Aujourd'hui, les problèmes sont complexes pour chacun d'entre nous quand on travaille, donc on a besoin d'être à plusieurs pour arriver à les résoudre. Donc par rapport à ça, on a effectivement beaucoup travaillé sur des séparations transparentes qui n'entravent pas justement cette impression d'être ensemble. On a travaillé, il y a des choses très simples hein, qui sont, si vous devez demander à des gens de respecter une distance, mettez plutôt un endroit, un bac à plantes ou des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de tips et beaucoup de conseils d'aménagement sur lesquels on a travaillé, de solutions aussi, qu'elles soient de protection, transparentes, pour pas entraver encore une fois ce buzz et cette dimension sociale qu'on vient chercher.
On est venu parce que vous faites du conseil en organisation, vous cherchez uniquement pour de la réorganisation, même pas forcément payer des protections, mais juste réorganiser les bureaux.
Absolument, absolument, bouger les bureaux, faire en sorte que les gens soient pas forcément en face à face quand ils travaillent, ou s'ils sont en face à face, qu'ils soient à un mètre ou plus, qu'ils aient une séparation encore une fois si possible transparente de manière à quand même se voir, réaménager les salles de réunion. Puisque là, c'est très compliqué. Surtout les salles de réunion qui ont vocation à être créatives, c'est-à-dire où on doit bouger, où on doit ensemble aller vers un tableau blanc.
Certaines sont fermées aujourd'hui.
Certaines sont fermées. Donc là, on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi pour faire en sorte, à la fois à travers la distanciation des objets, faire en sorte que les objets soient par exemple sur roulettes. On a énormément de collections qui permettent aux utilisateurs de bouger eux-mêmes leur mobilier. C'est très intéressant parce que du coup, ça leur permet de configurer en fonction des besoins de l'équipe. Donc c'est tout un tas de pistes de réflexion qu'on a accélérée. C'est pas forcément des réflexions.
Le sans contact aussi.
Le sans contact aussi. La possibilité, effectivement, d'éviter de toucher un maximum les surfaces. Et puis, les protocoles sanitaires, hein, bien entendu, qui sont à réfléchir dans le détail. Parce que ce qu'il faut, c'est que les gens reviennent vers des espaces qui les inspirent et qui, dans lesquels ils se sentent en totale sécurité. Donc, c'est un enjeu d'aménageur intéressant. Mais on a énormément de dialogues aujourd'hui et de discussions avec nos clients qui sont dans cette transformation-là, qui sont d'ailleurs dans cette transformation pour certains d'entre eux bien avant le Covid, hein, puisque l'hypercollaboration, le fait de travailler ensemble, c'était déjà, bien entendu, ce que les gens venaient chercher.
Comment vous voyez évoluer votre métier ? Vous dites aujourd'hui, quand une entreprise va nous demander d'aménager l'espace, eh ben, il faut aller aménager le siège, mais il faut aussi aller aménager peut-être chez les collaborateurs, et puis des espaces tiers. On sait aussi que le bureau, il y a l'identité de la marque. Vous allez distiller de l'entreprise un peu partout.
Alors, distiller de l'entreprise, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'on a énormément de dialogues en ce moment avec les directions des ressources humaines qui réalisent que, puisque maintenant le télétravail fait partie de l'écosystème, on va dire, d'espace, hein, il y a une hybridation, on appelle ça une hybridation des espaces de travail. Il est clair que, autant avant la Covid, c'était plutôt un choix personnel de travailler éventuellement une journée, deux jours chez soi. Maintenant, ça s'institutionnalise et à partir de là, les entreprises se sentent responsables quelque part du confort de leurs salariés à la maison.
Mais est-ce que vous croyez qu'elles vont payer pour ça ?
Bon, il y a beaucoup de discussions en cours, il y a beaucoup encore de gestation. La deuxième vague va sans doute accélérer ces réflexions-là de manière à faire en sorte que ça aboutisse.
Parce que c'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas c'est du pas obligatoire. Tout obligé d'aller financer un poste de travail en télétravail.
Voilà, hein. Il peut y avoir des dotations évidemment financières, mais il peut y avoir aussi des entreprises qui donnent accès aux conditions tarifaires, par exemple préférentielles, dont elles bénéficient pour leurs propres espaces, de manière à ce que les salariés puissent s'équiper eux-mêmes de solutions performantes. Donc il y a un arsenal de possibles, enfin il y a beaucoup de choses possible. On a énormément de travail, énormément de discussions avec les entreprises, mais en tout cas, toutes maintenant se posent la question, effectivement. Et puis avec la deuxième vague, là, je pense que ça va accélérer encore les décisions.
Mais du coup, vous, en tant qu'aménageur d'espace, vous avez pris une dimension conseil essentielle, vous avez changé un peu de rôle.
Ça a toujours été le cas, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, parce qu'on a toujours conçu notre métier comme étant, vous savez, on a l'habitude de dire que l'espace influe sur les comportements.
Oui, mais avant, dans certaines directions des ressources humaines...
Oui. Mais c'est, par exemple, mon travail à moi, c'est d'aller vers toutes les directions avec énormément d'entreprises et de réfléchir avec elles à leur transformation, à ce qu'elles veulent avoir comme culture d'entreprise, de manière à faire en sorte que les espaces de travail soient le reflet de ces intentions-là et pas simplement, on a des paroles, on a des
mais vérités. Mais aujourd'hui, les oreilles sont plus attentives.
Absolument. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les oreilles n'ont jamais été aussi ouvertes. Absolument.
Merci beaucoup, Nathalie Rigaud, consultante chez Steelcase, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag, une semaine donc marquée par le grand retour du télétravail un peu pour tout le monde et surtout dans les zones d'alerte maximale, les zones rouges écarlates dont font partie notamment Paris et Marseille. Je vous souhaite donc un bon télétravail à tous et on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.